Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur Campus Grenoble 90.8 ou sur campusgrenoble.org pour ce rendez-vous quotidien où nous voyageons avec Ella Maillard. Aujourd'hui, c'est le 6e épisode et après nous avoir décrit hier la magnifique ville de Kumbun et avoir préparé ses affaires pour partir avec la caravane, nous continuons aujourd'hui ces aventures à Ella Maillard vers les oasis interdites. Alors, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes préparé une petite tisane, que vous avez votre plus beau plaid. Fermez les yeux et laissez-vous porter. On part en Asie. Chapitre 10. La caravane vers l'ouest. Après avoir chevauché 4 jours, je vois, par-delà la steppe aux herbes dorées, une grande clarté se transformer peu à peu sous le ciel de plomb en une immense étendue blanche. Les eaux gelées du Koukounor. Tangar quitté, nous avions remonté le cours d'un torrent dans un vallon rocheux où pour la dernière fois j'avais vu couler l'eau vers la mer. Dorénavant, pendant des mois, nous marcherions dans les bassins fermés de l'Asie centrale. Le premier soir, nous avions trouvé l'asile dans une confortable maison chinoise où les femmes, à la mode tibétaine, avaient de longues tresses gainées de broderies. Sur les murs, dotés de légendes russes, étaient des tableaux de la guerre russo-japonaise, dans le genre des images d'Épinal, cadeaux de quelques voyageurs venus de Sibérie, en route pour Lhassa peut-être. Croyant avoir atteint les confins du monde, voici que je croisais encore une grande voie internationale. Le second jour, un peu de neige fraîche blanchissant le sol, il avait fallu revêtir de gros habits d'hiver. Parvenu à quelques 3000 mètres d'altitude par une vallée encaissée, le paysage maintenant s'élargissait et s'arrondissait. Le chemin, flanqué de poteaux télégraphiques, allait vers un poste de douane que nous voulions éviter et nous étions partis vers l'ouest. Dans un grand pâturage pelé, des bœufs paissaient. L'un d'eux avait une corne bizarrement recourbée qui pénétrait peu à peu son os frontal sans qu'il en eût paru affecté. À quelques kilomètres, une forêt de sapins faisait une tache sombre. Je me réjouissais à l'idée de camper dans un paysage alpin, mais notre piste ne passait pas par là et ces arbres, les derniers peut-être sur notre route, disparurent à leur tour. Puis ce furent, au pied de la montagne, les bâtiments plats et allongés de la lamasserie de Tungkuseu, aux murs badigeonnés de teintes bleues, blanches ou rosâtres. Comme des cerbères, 2 séries de 4 shortens, énormes reliquaires blancs en forme de bouteille ventrue, se dressaient sur le terre-plein près du ruisseau. Le lama, fort enrhumé, qui nous offrit l'hospitalité dans sa chambre calfeutrée, devait être quelque peu maquignon. Par l'intermédiaire de Li, il proposa d'échanger son petit cheval Tangout contre celui de Peter, mais il demandait 25 dollars pour ce marché. Leurs pourparlers, autour du pot de thé au lait beurré, furent longs. Notre hôte prétendait à une certaine distinction. Non seulement des photos le montraient en équipage de chasse à Lhassa, mais sans cesse, au lieu de se servir de ses doigts, il se mouchait d'un morceau de drap bleu foncé, caché sous le tapis du Kang. Enfin, le marché fut conclu, et Peter se trouva possesseur d'un poney noir comme le diable, bien plus joli que mon slalom, mais qui devait lui en faire voir de toutes les couleurs. Il le baptisa Grease. Les heures étaient longues. La chaleur me rendait paresseuse, et dehors, le froid était aigu et les montagnes encotonnées. Je n'avais pas le courage de visiter les petites cours pavées et la pagode, semblables sans doute à celles que j'avais déjà vues. Je fis rire notre lama en voulant priser. comme lui, la poudre verte qu'il conservait dans une jolie corne polie. Après une incoercible série d'éternuements des plus brillants, je préférais ma petite pipe, fidèle compagne des heures longues passées à la barre d'un voilier, des heures lentes dans les cabanes de montagne, où j'avais, comme maintenant, le visage brûlant d'avoir avancé contre le vent d'ouest, lourd de neige. Ici, ma pipe n'étonnait personne, puisque, en Chine, les femmes fument comme les hommes. Enfin, c'est l'heure de la soupe. On apporte une marmite de pâtes, dont le lama remplit généreusement nos bols, et que nous mangeons avec des bâtonnets de bambou, cadeau de Madame Urek. Pour remercier le lama de sa large hospitalité, je ne peux moins faire que de lui donner une photo de Patchen Lama. Selon Smig, je devais pouvoir tout obtenir d'un mongol au moyen du portrait de ce grand chef spirituel. Aussi avais-je commandé à Lou 6 exemplaires du saint homme, hommage au soleil de la doctrine, possesseur omniscient de l'enseignement royal. Le lendemain, bifurquant vers le sud, nous avions abordé par un petit col une vaste steppe dépouillée à peine limitée, au loin par des collines basses, et rejoint une piste en travers de laquelle déboulaient des lièvres gris. Confiant son cheval à Lee, Peter partit en chasse avec sa petite carabine. Quelle aubaine si quelques gibiers pouvaient mijoter ce soir dans la marmite pour notre premier campement. Le régime de moutons, auquel nous pensions, bien à tort, être condamné pour des mois, serait différé d'autant. Parmi les hautes touffes d'herbe, raides et jaunes comme des brosses, je rabattais les lièvres vers Peter. Slalom prenait part au jeu, me regardait faire le guet, puis démarrait à fond vers la boule de fourrure bondissante. Terrifiées, les bêtes souples semblaient catapultées par les dunes sablonneuses. Une, deux, trois, hop! Un bond fabuleux après 3 temps de galop. Debout, dans les larges étriers de bronze, faisant les moulinets avec ma cravache, le vent sifflant à mes oreilles, j'excitais slalom par des cris sauvages. J'avais gagné la steppe. Elle était à moi. Je me sentais d'une force invincible. Rares instants de bonheur. Peter n'avait rien tué malgré mes efforts. Et voici qu'il s'en prenait à mon cheval, le traitant d'affreux animal de carrousel. Incomparable slalom. Comment pouvait-on dire cela de toi ? Tu comprenais tout ce que je voulais, et ton trot ambré était si confortable. Aussi te défendais-je de tout mon cœur. Pour la première fois ce soir-là, nous dressâmes notre petite tente, fabriquée à Sinning pour $10 mexicains. Craignant les tempêtes de sable, je l'avais voulu aérodynamique et abaissée à une extrémité. Faite d'une seule épaisseur de coton blanc, nous avions peu de pluie à craindre, elle se trouva, après sa première nuit sous le froid ciel d'Asie, recouverte de paillettes givrées. Nous étions sans doute dans le voisinage d'un campement tangout, car des yaks apparaissaient au loin, comme des cubes noirs sur une mer de paille. Curieux mais timides, des indigènes au manteau luisant de crasse nous rendaient visite avec leurs chiens de garde, énormes masses de poils noirs, à museau court, féroces aux étrangers. Smig m'avait conseillé de savoir viser et d'avoir toujours quelques pierres dans mes poches pour tenir ces chiens à distance en attendant leur maître. Mais que faire dans la steppe quand on n'a ni pierre ni bâton? Effarouchées, deux jeunes filles tangoutes aux mille tresses, aux manches raides traînant à terre, ne se laissait pas amadouer par mes sourires. Je pensais à ce que j'avais lu à Tangar sur les coutumes originales des Tujen, hommes de la terre, tribu aborigène du Coucou Nord. Selon leur code de l'hospitalité, ces indigènes prêtent leurs filles pour la nuit à leurs hôtes. En partant, l'étranger est tenu de faire un cadeau qui l'accompagne de sa ceinture. Si par la suite la jeune femme se trouve enceinte, on procède à un mariage à la ceinture. Et devenu grand, l'enfant de cette union passagère aura le droit de rejoindre son père, muni de la ceinture donnée jadis en gage. Mais si une femme ne veut pas dire de qui est l'enfant, on organise simplement un mariage au Ma, le mât sacré d'où pendent les prières sur Oriflamme, ce qui signifie Les dieux ont voulu cette naissance et l'enfant appartiendra à sa mère. Peut-être les jeunes filles que je regardais étaient-elles des Tujen, attirées par le riche voyageur blanc. Mais Peter ne s'intéressait pas à la recherche des survivances. Lorsque je rêvais de découvrir et d'étudier des mœurs inconnues, Peter parlait de l'oiseau rare qu'il désirait capturer pour le zoo. Cela devait lui rapporter une fortune et, du même coup, sous forme de quelques flimingem, il verrait son nom immortalisé sur l'étiquette du spécimen découvert au Sedam. Peter, chasseur-né, me décrivait le cri et le plumage du gibier qu'il espérait tirer et méprisait grandement mon ignorance de la jante volatile. Chapitre 11. Avec le prince de Dzun au Kukunor. Le prince de Dzun. Nous approchons du Kukunor. Aujourd'hui, nous devons rejoindre la grande caravane du prince mongol, promise par Li. Dès 11h30, sous le vent d'une dune, apparaît un groupe de tentes blanches et pointues entourées de chameaux broutant l'herbe sèche. Galopant derrière Li, nous traversons la boue gelée d'un mince cours d'eau et mettons pied à terre, près de la tente du prince, seule ornée d'une décoration géométrique. Lorsque nos chameaux arrivent, conduits par leur propriétaire, nous avons déjà décelé et entravé nos chevaux qui s'éloignent en clopinant. Sitôt notre tente dressée, nous demandons à Li s'il est convenable d'offrir notre télescope au prince avec nos compliments. Li approuve. Ce gentil garçon paraît d'ailleurs plus éveillé depuis qu'à la tibétaine, il a enfilé grosses bottes et poulou de serge rouge. Nous connaissons mieux, il est aussi moins timide. Je ne sais de quelle réputation jouissent les Blancs à Loussar, mais la première chose qu'il a dite à Marcel Urek a été « Tout ira bien si, en cas de contretemps, le monsieur ne s'emporte pas ». Li, bien au courant des coutumes mongoles, porte le télescope sur ses mains ouvertes, non sans avoir au préalable couvert celui-ci du katag, écharpe de présentation que j'avais apportée de Sining, et nous nous dirigions vers la tente du prince en nous rappelant qu'on n'y entre pas avec sa cravache à la main et qu'on n'y vide pas sa pipe en la frappant contre le gris du foyer. La tente de voyage est posée sur les ballots de la caravane, disposée en petits murs ovales. Très simplement aménagée, elle s'ouvre largement pour laisser échapper la fumée. Dzun Oye est assis à la turque sur une vieille peau de mouton. Sur sa tête, posée à la diable, est un calot de feutre brun soutaché d'or et doublé de fourrure. Sa pelisse de mouton est recouverte de satin rouge. Âgé de 26 ans peut-être, il est beau. Yeux à peine bridés, nez mince et bouche petite dans un visage rond aux pommettes bombées. Il porte une turquoise à son doigt, une grande boucle à une seule de ses oreilles, et autour de son cou, comme tous ses compatriotes, la boîte métallique d'une amulette. Impassible, Dzun écoute le compliment intimidé que Li lui débite en mongol. Le feu d'argol qui brûle devant lui fait chanter le thé dans un pot de cuivre. On nous offre du beurre contenu dans une boîte en bois. Nous sortons nos bols de nos vestes et j'aspire avec délice le thé beurré et fumant qui fait revivre mes mains engourdies. L'argent mat dont est doublée la coupe du prince luit doucement lorsqu'il a fini de boire. Ne sachant plus que dire, nous faisons mine de nous retirer. Le prince, jusqu'alors silencieux, nous retourne nos compliments et nous présente un katak défraîchi qu'il tire de sous son tapis de sel. Mais cela ne suffit pas aux spectateurs, qui s'écartent pour ne rien perdre de la scène. Chacun grille d'essayer le télescope qui lui permettra de voir où les chameaux sont dispersés. À son corps défendant, il me semble, le prince s'empare de la longue vue et s'essaie gauchement à l'ouvrir. Nous montrons où nous avons fait une encoche correspondant à la vision la plus nette. Mais les lentilles sont un peu troubles. Et surtout, le prince ne sait pas fermer un œil sans mettre la main devant. Bref, cet instrument d'optique semble lui donner peu de joie, ou bien il n'en laisse rien voir. Comment savoir si nous avons acquis ces bonnes grâces ? Tandis que Peter va chasser, Je reste sous la tente en raccommodant une chaussette. Aussitôt le défilé des curieux commence. Tout étonne ces Mongols qui ne campent que rarement quelques jours près de Tangar ou de Lhoussar. Ils se regardent dans le miroir, puis ils détordent mon fil de laine manufacturé, ou encore s'extasient devant les ciseaux à ongles, la fourchette ou la vieille boîte de conserve dans laquelle j'ai du beurre. Parmi mes visiteurs sont aussi des marchands chinois, parfois métissés de Mongols comme Li, et qui y vendront pendant 6 mois du thé et des outils aux nomades qui n'ont pas été à la ville cette année. Ils sont plus civilisés. Ils ont déjà vu des couteaux à plusieurs lames et des lampes électriques de poche. Mais je ne les aime pas et les trouve rudes et grossiers sur leurs accoutrements empruntés aux barbares. Ces derniers, grands enfants encore timides, sont au contraire pleins d'égards et désireux de ne pas me déplaire. Fatiguée de distraire mon public, j'ai la bonne idée de leur mettre dans les mains le livre de Latimer sur la Mongolie, expédient qui devrait, par la suite, me débarrasser plus d'une fois de leur curiosité inlassable. Les illustrations leur montrent des scènes qu'ils commentent en connaissance de cause. Pour mieux regarder, chose curieuse, ils mettent la main en cornet devant leur œil. Échevelé par le vent glacial, Peter revient en traînant par le cou 3 énormes oies gris-perles dont les corps disparaissent sous une incroyable épaisseur d'édredon. Je me sens très femme des cavernes, fière de ce que notre feu est seul du gibier de ce soir. Et Peter prend un air modeste, comme s'il était coutumier de pareils coups de fusil. Tout le monde nous entoure, inspecte la carabine, s'extasie sur la paillasse de la balle et l'adresse du chasseur. On se précipite à terre pour chercher la douille qui vient d'être éjectée. Li évite une catastrophe à la dernière minute quand Peter veut offrir un volatile au prince, auquel sa religion interdit, paraît-il, cette nourriture. Aïe. Les Mongols ne semblent guère nous approuver. Avons-nous déjà commis une erreur en chassant ? Un vieux petit Dungan, dont la barbiche s'agite au bout d'un montant en galoche, bavard comme une pie, et que nous appelons le Bosco, s'empresse de saigner, selon le rite musulman, loi que nous lui donnons. Le Bosco, avec une dizaine de ses coreligionnaires, est envoyé par le général Ma Pufang pour laver le sable aurifère des rivières tibétaines à raison de 8 dollars par mois. Quelle belle histoire! Nous voici compagnons d'une ruée vers l'or des plus originales dans les régions désolées du Koukou Nord. À défaut de trésors ethnographiques ou d'oiseaux rares, ferons-nous fortune en découvrant un placé au milieu de l'Asie ? Notre roi nous a mis en retard. Li n'a pas montré beaucoup d'enthousiasme pour la plumer, puis elle a mis 3 heures à s'attendrir un peu dans la marmite, de sorte que c'est à la lueur d'une bougie, grand luxe chez les nomades, que nous buvons notre thé avant de nous endormir. Nos sacs de couchage sont très confortables, mais le cuir tanné au sel me donne des quintes de toux exaspérantes. Le Koukou Nord. À notre droite s'étale le Koukou Nord gelé, profond seulement de 35 mètres, mais grand comme 10 fois le lac Léman, vraie mer sans écoulement dont j'ai lu quelque part que l'eau est salée, ce qui me fait gagner 100 dollars mexicains contre Peter qui prétend le contraire. Mais je confesse que je viens de perdre un autre pari. J'avais soutenu à Sining que nous n'arrivions jamais à nous défaire de l'escorte que les autorités nous imposeraient si jamais nous parvenions à quitter les régions civilisées. L'atmosphère claire et sèche fausse les distances. Peter et moi galopons à un bon moment pour gagner la grève, qui nous semblait proche, et où sont amoncelés des blocs de glace enneigés. Nous photographions ce lac, qui symbolisa si longtemps pour nous un but presque inaccessible. Nos chevauchées étaient parfois rendues difficiles par l'humeur insupportable de Grease, le petit cheval que Peter avait acquis du lama. Cette jolie bête se montrait toujours capricieuse au moment d'être montée, et son maître taxait de xénophobie la répugnance particulière que Grease semblait avoir pour lui. Un jour notamment, voici que le poney rue, jette Peter à terre, le piétine et part dans un galop éperdu où la selle, le bisac et son contenu sont dispersés au loin. J'avoue que j'eus très peur. Peter s'était traîné jusqu'à une motte de terre. Il ne bronchait pas, mais avait la couleur d'un concombre. Sa cheville avait reçu un coup de sabot. Avait-il rien de cassé ? On se représente les conséquences d'un tel accident dans de telles circonstances. Par bonheur, ce n'était qu'une contusion, mais il fallut désormais que Lee ou moi tenions la bride de ce noir démon de Grease chaque fois que Peter s'apprêtait à le monter. À notre gauche, parallèlement au lac, le sud est limité par des collines où je vois parfois une tente tibétaine s'abriter du vent, noire pyramide tronquée où sans doute je pourrais trouver le beurre qui nous est nécessaire. La steppe ne fait pousser que de rares touffes d'herbe, entre lesquelles le vent la rôde inlassablement. Nous avançons maintenant en ligne droite, entre deux fossés qui permettront à l'eau de s'écouler lors du dégel. Ce doit être la route en construction qui mène à Dolan, ou Tulanze, lointain poste de contrôle que nous éviterons en partant vers le sud. Comme Norine le disait, j'aurais pu gagner le Tsedam à bicyclette si j'avais pu transporter assez de vivres avec moi. Sans doute Norine était-il passé ici même, il y a 2 ans, poussant devant lui, avec courage, jour après jour, sa roue enregistreuse de distance ? La neige tombait encore, comme au cœur de l'hiver. Dans ce pays sans arbres, notre procession courbée contre le vent ressemblait moins à un épisode de la ruée vers l'or qu'à un moment de la retraite de Russie. À l'écart sur un cheval blanc, le prince évoquait tout à fait Napoléon. Légende. Des villes sont enfouies sous les sables des environs, à ce qu'on dit, et cette région grandiose a donné naissance à plus d'une légende. Les eaux du lac étant sacrées, la navigation y est interdite. Et c'est pourquoi les lamas qui habitent sur l'île de Kukunor ne peuvent être ravitaillés qu'en hiver, lorsque la glace crée une route naturelle. L'origine de cette mer intérieure est attribuée à la colère d'un dieu tibétain, qui demeurait très loin de là. Les habitants de la région, lui ayant désobéi ou même nié son existence, le dieu résolut de les noyer. D'un large trou, l'eau jaillit, recouvrant peu à peu tout le pays. Mais devant leurs pâturages engloutis, les gens s'étaient repentis et le dieu envoya alors son aigle le plus puissant, qui laissa tomber au milieu du lac un gros rocher, éboucha le trou néfaste, tout en formant une île. Celle-ci aurait été habitée jadis par des juments merveilleuses, capables de parcourir 1000 lis en un jour, environ 500 kilomètres. Et ces bêtes infatigables étaient connues pour suer du sang, ajoutent les chroniques. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ces premiers jours de la Maillard et de son comparse Peter Fleming vers les oasis interdites. Je vous retrouve demain à la même heure, 14h, sur Campus Grenoble 90.8. Ou sur campusgrenoble.org. À très vite et bonne écoute. À très vite et bonne écoute sur Campus. À très vite et bonne écoute sur Campus Grenoble. Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement.